VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Bamako, 18h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari est rentré au pays aujourd'hui après un séjour médical de près de 2 mois en Grande-Bretagne. Le chef de l'État nigérian a toutefois annoncé qu'il allait poursuivre sa convalescence et que son vice-président continuerait dans l'immédiat à assurer l'intérim. Selon un porte-parole, le président Buhari officialisera son retour à la présidence lundi. Plus de détails avec Jacques Aristide.
De retour à Abuja, l'ancien général de 74 ans a indiqué qu'il se rendrait de nouveau en Angleterre dans les prochaines semaines pour y subir des examens médicaux et d'ajouter lors d'une réunion politique avec des membres du gouvernement et de son parti qu'il allait pour l'heure continuer de se reposer. D'où sa décision de maintenir son adjoint Yemi Osinbajo à la tête du pays. J'ai fait exprès de rentrer avant le week-end pour que le vice-président continue, a expliqué Muhammadu Buhari, sans toutefois préciser si cette mesure s'appliquerait uniquement pour cette fin de semaine ou si la période de repos pourrait être plus longue. Il n'a pas non plus évoqué les motifs de son hospitalisation, ce qui provoque depuis quelque temps des rumeurs de toutes sortes dans les médias. Le président Buhari avait quitté le Nigeria le 19 janvier pour être soigné à Londres, après y avoir déjà passé en juin dernier près de 2 semaines, toujours pour des raisons médicales. Des observateurs notent que Yemi Osinbajo a déployé une énergie remarquée à sa tâche de président par intérim. Et dit-on, de sources diplomatiques et dans les milieux d'affaires, les dossiers ont avancé à un rythme inédit depuis l'élection de Buhari il y a 2 ans. Et voilà, merci.
Au Niger, voisin, plusieurs procès à huis clos d'un millier de présumés combattants islamiques de Boko Haram poursuivis pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste ont lieu depuis début mars dans la plus grande discrétion. Les précisions de Tatiana Mosso.
Les prévenus sont des Nigériens, des Maliens et des Nigérians. Les procès vont durer plusieurs mois et concernent surtout des délits et non des crimes dont les peines ne dépassent pas 10 ans de prison. Un dossier peut regrouper 10 à 20 prévenus. Certains ont écopé de 3 à 9 ans de prison ferme. Les crimes seront jugés ultérieurement par d'autres juridictions, a assuré le procureur de la République. Fin décembre 2016, Niamey a annoncé qu'il allait accélérer les procédures judiciaires à l'encontre des présumés combattants de Boko Haram, incarcérés depuis plus d'un an dans le pays. Environ 1200 personnes soupçonnées d'être proches de Boko Haram sont détenues depuis 2015 en attente de jugement. Certains ont été capturés lors de combats ou de contrôles en vertu de l'état d'urgence imposé dans la région de Diffa, frontalière du nord-est du Nigeria. Le groupe islamiste Boko Haram a mené ses premières attaques au Niger début 2015. Au moins 177 civils ont été tués par Boko Haram entre février 2015 et septembre 2016 à Diffa, d'après l'ONU.
Au Burkina Faso, congrès très attendu ce vendredi du parti présidentiel, le MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès. Selon certains médias, l'atmosphère serait tendue en raison de la guerre intestine que se livrent ses leaders. Le chef de l'État, Roch-Marc-Christian Kabore, le président du Parlement, Salif Diallo, et le ministre de l'Intérieur, Simon Compaoré. Pour une analyse, Bagassi Koura a joint à Ouagadougou Dieudonné Zungrana, directeur de publication du journal Aujourd'hui au Faso.
C'est le deuxième congrès statutaire du parti présidentiel, le MPP, qui se tient à partir du 10 mars jusqu'au 12. Et donc, c'est un congrès statutaire qui est inscrit dans les textes. Et le thème central de ce congrès est mise en œuvre opérationnelle du programme présidentiel. Quelle perspective et quel engagement? 5 000 délégués vont plancher, en fait, sur ce thème-là.
Alors, ce congrès se tient alors qu'on parle de plus en plus de tensions entre les leaders de ce parti, notamment entre le président du Faso, Roch Kabore, et le président du Parlement, Salif Diallo. Qu'en est-il?
Non, je pense que rien que ce matin, même le président du Parlement, Salif Diallo, a donné une interview à un de nos confrères, l'observateur Palra, et il n'en est rien. À ce stade, il a dit qu'effectivement, il peut avoir certains problèmes, mais ils en discutent, les trois. C'est ce qu'on appelle les RSS. Roch, Salif, Simon. Ils discutent, mais il a fait sous forme de boutade en disant que leurs adversaires sont pressés pour que ça implose, mais ce n'est pas le cas jusqu'à présent. Et ça tient entre les trois.
Mais vous êtes un observateur de la scène politique. Hein. D'où vient donc cette rumeur-là? Est-ce que c'est seulement les adversaires qui essaient de distiller ce genre d'informations?
Non. C'est vrai qu'il y a eu des moments où, bon, mais ça date quand même où il y a eu quelques sorties du président de l'Assemblée nationale qui a donné l'impression qu'il y avait des disputes entre lui et le président du FASO. Mais je pense que tout ça a été recadré et aujourd'hui, bon, en tant qu'observateur, sauf vraiment erreur d'analyse, je pense que jusqu'à présent, les trois leaders du MPP savent qu'ils sont embarqués sur le même ratio, sur le même bateau, et qu'ils n'ont pas intérêt à vraiment livrer ce bateau-là au vent. Ils doivent tenir ferme le gouvernail pour en tout cas aller vers des lendemains meilleurs pour le Burkina Faso.
De façon générale, comment est appréciée la gestion du pouvoir par le MPP?
Bon, actuellement, le seul hic, c'est que économiquement, ça ne va pas. L'économie burkinabé est exsangue et actuellement, il y a beaucoup de grèves, il y a des grèves fermées. Ce qui fait que l'administration est souvent paralysée. Il y a aussi la problématique de l'insécurité dans le nord du Burkina, en particulier dans le Soum. Donc voilà les deux problèmes actuellement auxquels le pouvoir doit faire face.
Dieudonné Zungrana, directeur de publication du journal, aujourd'hui au Faso.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Les abus sexuels en Centrafrique maintenant, deux associations, Innocence en danger et Enfance et partage, ont annoncé ce vendredi avoir demandé à la justice française d'auditionner à nouveau 10 militaires français de la force Sangaris, accusés de viol sur 41 mineurs, en grande partie des garçons âgés de 7 à 13 ans, en RCA entre 2013 et 2014. Ces deux ONG qui se sont constituées parties civiles dénoncent une instruction qu'elles qualifient de partiale et lacunaire. Rappelons que les juges d'instruction français saisis depuis mai 2015 ont notifié le 20 décembre dernier qu'ils mettaient fin à l'enquête portant sur des accusations de viol et complicité de viol qui auraient été commis sur ces mineurs dans le camp de déplacés de Mpoko près de l'aéroport de Bangui, la capitale centrafricaine, entre décembre 2013 et juin 2014. Faute de personnes mises en examen, ce dossier pourrait s'acheminer vers un non-lieu. Et pour terminer, actualité aux États-Unis, les mesures migratoires du président Donald Trump commencent à affecter la vie dans les localités frontalières américaines et mexicaines. C'est le cas des villes jumelles de Nogales qui ont non seulement le même nom, mais une longue histoire commune. Reportage de Ramon Taylor à Nogales au Mexique, repris ici par Lionel Gaïma.
Situé de part et autre de la frontière entre l'État américain de l'Arizona et celui de Sonora au Mexique, Nogales États-Unis et Nogales Mexique sont séparés par une barrière métallique et un point de passage. Ils ont, au fil des ans, développé une riche histoire d'échanges culturels et commerciaux. Leurs maires se connaissent et leurs populations se fréquentent sans problème.
That's my counterpart here, Temo Galindo.
Aujourd'hui, l'imminence des expulsions massives des sans-papiers mexicains par l'administration Trump fait planer un gros nuage sur ses bonnes relations. D'autant plus que dans l'État de Sonora, Nogales, Mexique, est le principal centre d'accueil des immigrants expulsés, explique son maire Remo Galindo. Nous enregistrons en moyenne 50 à 70 expulsés quotidiennement, mais ce chiffre risque de grimper pour atteindre 500 à 700 par jour, une situation que nous avons déjà vécue par le passé. Cela posera d'énormes problèmes, fait remarquer de son côté le journaliste mexicain Ortiz
Alonso. Comment alimenter esa gente,
comment alimenter tous ces gens, comment leur trouver des emplois et comment les loger, car tout le monde n'est pas criminel. Ce sont des sans-papiers expulsés qui ont besoin de travailler, de survivre ici. Les relations commerciales bilatérales demeurent fortes au niveau local, mais les décisions du président des États-Unis pourraient les compromettre à affecter négativement les investissements américains au Mexique, s'inquiète le maire Temo Galindo. Son homologue John Doyle de Nogales, États-Unis, partage ses préoccupations.
Il y a un certain fear element out there still hovering up.
Il y a une certaine peur qui plane sur nos deux communautés, particulièrement du côté mexicain. Des gens en règle et qui peuvent franchir la frontière pour leurs achats se demandent maintenant s'ils seront intimidés ou même maltraités, si leurs papiers leur seront arrachés sans raison. L'incertitude n'est jamais bonne pour les affaires. Aussi, les maires de Nogales États-Unis et Nogales Mexique tentent tant bien que mal de préserver leurs bonnes relations de travail face à des lendemains incertains.
Merci Lionel Gaïma. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.